Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 chères auditrices, chers auditeurs de Radio Galère, pour cette émission Livres et Amis du mercredi 7 février 2024. Encore une émission enregistrée hors studio. Nous vous demandons donc encore d'être indulgents, mais pour un livre passionnant et pour un livre qui cette fois nous fait traverser l'Atlantique d'est en ouest, nous nous rendons en Floride, dans le sud des États-Unis, donc à une époque où la Floride était encore ségrégationniste. Nous allons vous lire un roman de l'écrivain afro-américain Colson Whitehead, qui a remporté le prix Pulitzer en 2020 avec ce roman Nickel Boys, alors que il l'avait déjà remporté, ce fameux prix Pulitzer, ce grand prix de littérature américaine qui distingue entre guillemets le livre de l'année. Il l'avait déjà remporté, oui, en 2017. Avec Underground Railroad. C'est vraiment très 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 exceptionnel qu'un écrivain remporte comme ça en 3 ans 2 fois le prix Pulitzer. Alors Underground Railroad, c'était un roman, bien sûr, c'était le roman on pourrait dire du cœur de l'histoire de l'Amérique noire, quasiment installé dans la réalité, puisque c'était l'histoire de ces esclaves qui fuyaient le Sud, qui fuyaient l'esclavage dans le Sud des États-Unis pour rejoindre la liberté, toujours précaire, mais enfin la liberté quand même, des États du Nord au 19e siècle d'abord, et puis donc ensuite la ségrégation, même si ce n'était plus l'esclavage, la ségrégation du Sud pour la relative liberté du Nord. Nickel Boys, c'est encore un roman, tout à fait ancré dans la réalité, ancré une fois de plus dans la réalité du Sud ségrégationniste. On est en 1960, enfin à partir de 1960, dans les États du Sud qui appliquent donc encore la loi Jim Crow, la loi de ségrégation, qui justement réglemente tous les faits de ségrégation et qui réglemente donc tous les interdits mis en place contre la population afro-américaine et qui va donc sévir jusque dans les années 60, à l'époque de la revendication de Martin Luther King pour les droits civiques, à l'époque où cette revendication de Martin Luther King commence à être connue et reconnue aux États-Unis même et bien sûr sur le plan international. Donc c'est de cette inguérissable blessure raciale de l'Amérique que nous vient ce roman saisissant, ce roman Nickel Boys, qui raconte la vie des pensionnaires d'une maison de correction, d'une maison de redressement, la maison de correction Nickel, installée en Floride, et qui va fonctionner jusque pratiquement dans les années 2000. Les adolescents mènent dans cette maison de correction une vie terrible. Ils sont soumis aux pires sévices, et bien sûr il y a ségrégation, donc les jeunes de couleur sont encore plus maltraités que les jeunes blancs qui sont aussi là dans cette maison de correction, dans des bâtiments différents. Les deux couleurs sont séparées. Les mauvais traitements, eux, ils sont pour tous, mais encore pire pour les jeunes de couleur. L'histoire du pensionnat, elle est incarnée dans le roman, principalement à travers l'histoire du héros central, Helwood Curtis, et à travers l'histoire de ceux qui l'entourent, son copain Turner, quelques autres pensionnaires, et puis aussi l'équipe de direction, on pourrait presque dire l'équipe de répression, qui sévit dans la maison de redressement et qui est menée par le sous-directeur Spencer et ses sbires. Il y a un directeur très, sur une autre planète, et c'est le sous-directeur et les adjoints qui font tout le boulot de répression, justement, contre les jeunes. Avant de commencer la lecture du roman en lui-même, nous allons, comme l'auteur, nous arrêter sur un point d'histoire véridique, justement. C'est celle de la découverte par des archéologues universitaires de Tallahassee, donc des universitaires de Floride, d'un cimetière clandestin qui se trouvait en bordure des terrains de la maison de redressement Nickel. Alors que la maison de redressement Nickel vient de fermer dans les années 2000, les terrains sont vendus à un promoteur immobilier. Et le promoteur, évidemment, remet à plat, remet en état tous ces terrains qui ont été plus ou moins soignés pendant 50, 60, 70 ans. En mettant à plat ou en mettant à neuf, on peut dire, les terrains, les hommes des travaux publics tombent sur des corps. Et donc, ils font appel aux archéologues de l'université de Tallahassee pour essayer de trouver de quand datent ces corps. On exhume les corps, qui sont en fait ceux d'un cimetière clandestin. Il n'y a même pas eu de cercueil, les corps sont dans de simples draps. Et ces corps, on trouve, enfin les archéologues s'aperçoivent très vite que ces corps portent des marques de fracture, les membres sont fracturés, le cou est fracturé, les poignets sont fracturés, comme si, en effet, avant de mourir, les personnes qui ont subi cela avaient véritablement subi des tortures, et des tortures allant jusqu'à la mort. Donc, étant donné l'emplacement, eh bien, c'est la confirmation publique des tortures subies par les adolescents du centre de redressement de Nickel, donc, jusque dans les années vraisemblablement 80, 90, 2000. Et c'est à partir de cette révélation ou de cette confirmation que le roman est construit. Colson Whitehead nous épargne les scènes de violence. Il pratique des ellipses, je dirais, de l'extrême violence, mais il reconstitue l'atmosphère sans arrêt dangereuse, l'atmosphère sans arrêt étouffante, qui pèse à chaque instant, ou presque, sur le pensionnat et sur ses pensionnaires. Donc, revenons à Elwood Curtis, c'est le jeune héros de notre histoire, c'est un jeune héros qui est lui sans histoire, qui vit au début du roman avec sa grand-mère. Ses parents l'ont laissé à sa grand-mère, il est à Tallahassee justement dans une petite partie qui s'appelle Frenchtown, qu'on pourrait presque comparer au carré français de la Nouvelle-Orléans. Donc un petit bout de ville, Tallahassee, plutôt calme, où il y a bien sûr la ségrégation, mais en fait, Elwood Curtis, il est très bon élève, il espère aller à l'université, il a une petite vie tranquille, et quand même, ce qui est très important dans sa vie à ce moment-là, au début des années 60, il se passionne pour le combat pour les droits civiques de Martin Luther King. C'est Françoise qui va nous lire ce début de vie tranquille de Elwood.
Le cadeau qu'Elwood reçut pour Noël en 1962 fut le plus beau de sa vie, même s'il lui mit dans la tête des idées qui signèrent sa perte. Martin Luther King at Zion Hill était le seul disque qu'il possédait et il ne quittait jamais la platine.
Donc il reçoit un disque, oui, qui est le seul qui lui appartient en propre, parce que sinon le tourne-disque sert à la grand-mère pour écouter des gospels.
Il n'avait pas la télé, mais les discours du révérend King étaient des tableaux si vivants que le disque valait pratiquement la télévision, voire la surpassait en majesté, comme l'immense écran du Davis Drive-In où il était allé deux fois. Elwood voyait tout. Les Africains persécutés par le péché blanc de l'esclavage, des Noirs humiliés et opprimés par la ségrégation, et la lumière à venir lorsque s'ouvriraient les portes de tous ces lieux fermés à sa race. Ses discours, enregistrés aux quatre coins du pays, à Détroit, Charlotte et Montgomery, jetaient un pont entre Elwood et le combat national pour les droits civiques. Monsieur Parker, Elwood.
Non, c'est Harriet. Harriet, c'est la grand-mère. Harriet, elle tenait une longue liste de ce qui était convenable ou pas. Donc en fait, on a là au début un petit peu le schéma de cette relation entre la grand-mère, adorable bien sûr, qui pratiquement vénère son petit-fils, mais qui est très regardante sur justement les activités du petit-fils. Et donc Harriet, la grand-mère, elle a pour Elwood un mode de vie bien arrêté, bien structuré.
Elle autorisa Elwood à travailler à la boutique après l'école ainsi que le week-end, ponctionnant la moitié de sa paye hebdomadaire pour les dépenses du quotidien et mettant l'autre de côté pour ses études. L'été précédent, il avait évoqué, l'air de rien, l'idée d'aller à l'université sans soupçonner le poids de ses paroles. Si l'arrêt Brown versus Board of Education marquait déjà un tournant inattendu, alors un membre de la famille de Harriet aspirant à faire des études supérieures était un authentique miracle. Cette simple idée dissipait toute appréhension à l'égard du bureau de tabac.
Le bureau de tabac, c'est là où il travaille, donc c'est là où Harriet l'a autorisé à travailler.
Elwood arrangeait les journaux et les comics dans les présentoirs et poussait les confiseries les moins appréciées. Il tomba sous l'emprise splendide de Life. Dès qu'il avait fini de trier les invendus et de mettre les nouveautés en rayon, il se juchait sur l'escabeau pour suivre les dernières incursions du magazine dans les franges ignorées de l'Amérique. Il connaissait la place de Frenchtown dans la lutte des Noirs, savait où son quartier s'achevait et où la loi des Blancs lui succédait. Les reportages photos de Life l'emmenaient en première ligne, dans le boycott des bus à bâtons rouges, dans les sit-ins à Greensboro, partout où des jeunes, guère plus âgés que lui, prenaient les commandes du mouvement. Ils essuyaient des coups de barre de fer, le jet de lance à incendie, les crachats de femmes blanches en colère, et ils étaient capturés sur pellicule dans d'admirables scènes de résistance. Ainsi donc, ils feuilletaient des magazines pendant ses temps morts. Ses heures de travail chez Marconi lui fournissaient des modèles d'hommes qu'il pourrait devenir et l'éloigner du type de garçon du quartier qu'il n'était pas. Sa grand-mère l'avait depuis longtemps dissuadé de traîner avec les gamins du coin, qu'elle traitait de fainéants et de fauteurs de troubles. Le tabac, de même que les cuisines de l'hôtel, étaient des lieux sûrs.
Donc ça, c'est les petits emplois, en effet, de collégiens ou de lycéens que la grand-mère Harriet a laissé Elwood prendre pour avoir un peu d'argent. Et Harriet a toléré ça parce que c'est dans son quartier, parce que c'est quasiment au coin de sa rue. Et c'est ce qui permet à Elwood, donc on a vu qu'il n'avait pas la télévision, c'est ce qui permet à Elwood d'avoir une super information sur, ben, en effet, ce qui se passe dans le monde et surtout ce qui se passe dans le combat sur les droits civiques qui bat son plein à cette époque-là. Il va même se passer quelque chose de très particulier, c'est que à Tallahassee même, et malgré l'interdiction de la grand-mère Harriet, Elwood va participer au rassemblement sur les droits civiques. Harriet a bien calculé que, a priori, puisque Elwood travaille au tabac, il ne va pas aller se mêler au cortège. Mais en fait, eh bien voilà, il y a un petit dérapage dans l'emploi du temps. C'est donc la participation de Elwood au mouvement pour les droits civiques qui va nous être présentée, avec aussi l'arrivée d'un nouveau professeur dans son lycée et l'arrivée d'un nouveau professeur qui justement lui ouvre les yeux encore plus grands sur le combat sur les droits civiques. Mr. Hill arriva à Lincoln alors qu'Elwood entrait en première. Il salua les élèves de son cours d'histoire et inscrivit son nom au tableau. Il avait posé le pied en Floride pour la première fois l'été même, venu en bus de Washington, en tant que Freedom Rider, c'est-à-dire ceux qui soutiennent justement la lutte pour les droits, pour vérifier si les lois interdisant la ségrégation dans les transports étaient bien appliquées. Il avait défilé à Washington et ailleurs. Et puis, il s'était installé pour déjeuner à des comptoirs interdits et il avait attendu qu'on le serve. Et finalement, comme on ne le servait pas, « J'ai eu tout le temps de préparer mes cours en attendant qu'on m'apporte mon café », disait-il. Il avait fait de la prison pour trouble à l'ordre public et il racontait toutes ses histoires d'un ton blasé, parfaitement dans la ligne de la non-violence de Martin Luther King. Mr. Hill fut bien conscient qu'Elwood était fasciné par la lutte pour les droits civiques, avec un petit sourire en coin chaque fois que, justement, Elwood intervenait en cours. Le corps enseignant du lycée tenait ce garçon en haute estime depuis longtemps et estimait son tempérament calme. Lorsqu'il fallut attribuer le premier rôle de la pièce donnée en fin d'année pour Emancipation Day, le choix se porta tout naturellement sur Elwood. Jouer Thomas Jackson, l'homme qui annonce aux esclaves de Tallahassee qu'ils sont libres, ben oui, c'est sûr, c'était un bon entraînement pour se préparer à sa version à lui de l'avenir, à sa version à lui de la libération. Et Elwood investit son personnage avec toute la rigueur qu'il fallait dans une telle responsabilité. Elwood peaufina ses inflexions, sa gestuelle, ses discours, et donc il annonça « Mesdames, messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le temps est venu de rejeter le joug de l'esclavage et de prendre enfin la place qui nous revient, celle d'Américains à part entière. » L'hiver suivant, la ville abrogea enfin la ségrégation dans les bus, et Harriet, pour la première fois, vit dans un autobus un chauffeur de couleur. En plus, dans le bus, elle put s'asseoir là où elle voulait. Le travail est une valeur essentielle, et c'est ce que Harriet avait toujours fait ressortir à Elwood. Lorsque les combats pour les droits civiques s'étendirent jusqu'au Frenchtown, Harriet dit à Elwood « Toi, tu t'es engagé pour travailler tous les jours après l'école, donc tu vas chez lui, pas question d'aller au défilé. » Mais le lendemain, quand M. Marconi lui dit que finalement il allait fermer plus tôt, étant donné ce qui se passait en ville, eh bien Elwood se trouva libéré. Et donc, il quitta sa boutique, en entendant les clameurs des manifestants qui peu à peu montaient de Monroe Street. « What do you want? Freedom! When do you want it? Now! » Qu'est-ce qu'on veut? La liberté. Quand est-ce qu'on la veut? Maintenant! Donc les étudiants de l'Université de Floride défilaient en boucle immense, ils brandissaient des pancartes et partout ils s'installaient dans les rues. Au début, Elwood garda les yeux baissés, et puis tout à coup, une fille plus âgée que lui, qui portait un pull rayé, lui donna un grand panneau en lui faisant un grand sourire. Et sur le panneau, il y avait « Equal treatment under the law », « Même loi pour tous ». Ben oui, bonne pancarte. Et donc, il commença à défiler. Un peu plus tard, quelqu'un attrapa Elwood par l'épaule. Il se préparait déjà à ce qu'une clé anglaise s'abatte sur sa tête, mais non, ce n'était que Mr. Hill. Son professeur d'histoire était là, son professeur d'histoire avait rejoint avec un autre groupe d'élèves de terminale le défilé. Alors tous, ils se serrèrent la main. Le mois suivant, la police arrêterait plus de 200 manifestants. Mais ce jour-là, la première mobilisation se déroula sans heurts. Ils étaient là, tous. Ils s'étaient réunis, ils avaient défilé, ils étaient heureux de s'être sentis plus proches les uns des autres, et Elwood était plus proche de lui-même. L'espace d'un instant, il avait nourri ses rêves. Un jour, il partirait à l'université, il quitterait la petite maison de Harriet, et il serait avec les autres, avec tous ceux avec qui il avait défilé aujourd'hui. Le dernier jour de classe, Mr. Hill lui donna un exemple de « Chronique d'un pays natal » de James Baldwin. Ça lui fit bouillonner l'esprit. Les Noirs sont des Américains et leur destin est le destin de ce pays. Il n'avait pas défilé devant le Florida Theater pour défendre ses droits, ni même ceux de la race noire. Il avait défilé pour les droits de tous, pour les droits de tous les humains. Elwood, quand il rencontra son professeur un peu plus tard dans la rue, ne le reconnut pas. Il n'avait plus son costume, son nœud papillon, etc. Bien sûr, au collège, il enseignait la littérature anglaise, il enseignait l'histoire, mais dans la rue, finalement, c'était juste quelqu'un comme un autre. Et ce jour-là, Mr. Hill lui parla de l'université. L'université à laquelle il pourrait se réinscrire puisque c'était gratuit. L'université pour les Noirs, mais bon, l'université quand même. Elwood répondit « Il faut que je demande à ma grand-mère. »« Mais oui, dit Mr. Hill, fais-le, et moi je peux venir lui parler. » Dis-lui bien que ça serait parfait pour toi. C'est gratuit, c'est vraiment fait pour les élèves qui, comme toi, ont cette idée d'aller à l'université. Harriet ne trouva rien à redire à la proposition de Mr. Hill. Oui, sûrement le mot gratuit emporta son adhésion. Donc, tout fut réglé, les dossiers bouclés, et après cela, l'été se traîna comme une tortue des marais. Voilà, c'était fini. Avant de s'en aller pour l'université, Elwood rendit visite à M. Marconi, son ancien employeur, au bureau de tabac. Désormais, il ne pourrait plus venir travailler, l'université était trop éloignée. Et le patron se racla la gorge et poussa vers lui un étui de velours. « Voilà, pour tes études, » dit-il. C'était un stylo à plumes bleu nuit avec une bague en cuivre. Un joli cadeau. Même si M. Marconi avait dû bénéficier d'une ristourne, etc., etc. Harriet, elle, lui souhaita bonne chance. Comme chaque matin, elle vérifia qu'il était présentable, mais hormis une rare peluche à ôter sur son costume, la tenue d'Elwood était irréprochable. Ce fut également le cas ce jour-là, et Harriet lui dit « Ah, tu es très élégant !» Elle l'embrassa sur la joue et elle partit vers, elle, c'est Elwood, partit vers l'arrêt du bus, les épaules voûtées, mais fière de lui quand même. Qu'est-ce qui se passa après ? Ah ben oui, en allant à l'arrêt du bus, en vélo, sa chaîne cassa. Il rata le bus. Et donc, il commença à attendre au coin de Old Bainbridge Road, puis il se rendit compte qu'il n'y aurait plus de bus après. Donc, il fit du stop. Il attendit qu'un conducteur noir se dirige vers la nationale dans sa direction. Finalement, un splendide coupé s'arrêta. Un coupé vert avec des sièges blancs et verts. Rodney, se présenta le conducteur. Elwood, dit-il. Il monta. Ils prirent la route 636. Rodney donnait des tapes sur l'autoradio. « Oh, j'arrive pas à régler ce truc !» C'était peut-être pas sa voiture, en fait. « Quoi encore ?» dit Rodney. Une voiture de police venait de s'installer derrière eux avec un giratoire allumé. La voiture de patrouille peu à peu se rapprochait. Ils étaient en pleine campagne, il n'y avait personne. Rodney se rangea sur le bas-côté. Les policiers les arrêtèrent, les fouillèrent. Et la voiture avait été volée. Le shérif avait sorti son arme. Qu'une voiture pareille, avec un noir au volant. Ah ben oui, évidemment, c'était sûr que c'était une voiture volée. Voilà, c'est la fin de la première partie. C'est comme ça que Elwood se retrouve donc arrêté pour avoir fait du stop avec un conducteur qui conduit une voiture volée. C'est pas drôle du tout, il aurait dû se retrouver à l'université, et il se retrouve, deuxième partie de notre récit, dans notre maison de correction, dans cette fameuse maison de correction qui s'appelle Nickel, avec les autres garçons qui, eux, s'appellent Nickel Boys. Donc, La maison de correction, c'est Françoise qui va nous en parler, puisque sa vie, une autre vie, pourrait-on dire, commence là.
Quand il aperçut l'école, il se dit que Franklin avait peut-être raison. Nickel n'était pas si horrible. Il s'attendait à de hauts murs de pierre surmontés de barbelés, mais il n'y avait même pas de mur. Le campus était impeccablement entretenu, une oasis de verdure au milieu de laquelle se dressaient des bâtiments en briques rouges à un ou deux étages. Des cèdres et des hêtres, grands et anciens, dessinaient des zones d'ombre. Jamais Elwood n'avait vu une aussi jolie propriété. C'était une véritable école, un bon établissement, et non la terrifiante maison de correction qu'il se figurait depuis plusieurs semaines. Ironie du sort, elle correspondait à l'idée qu'il se faisait de Melvin Griggs Technical à quelques statues et colonnes près. Tandis qu'il remontait la longue route menant au bâtiment administratif, Elwood entrevit un stade et des garçons qui s'empoignaient et criaient sur la pelouse. Dans sa tête, il avait imaginé des prisonniers enchaînés à des boulets, des scènes de dessins animés. Mais ces jeunes-là s'amusaient comme des fous à courir sur l'herbe. « Bon, » fit Bill satisfait. Elwood n'était pas le seul à être rassuré. « Jouez pas au plus fin, » dit l'auxiliaire. « Si les surveillants vous rattrapent pas et si le marais vous avale pas, ils feront venir les chiens du pénitencier d'Appalachie, » termina Franklin. « Débrouillez-vous pour que tout se passe bien et tout se passera bien, » conclut l'homme.
Donc ça, c'est le transfert, l'arrivée, et maintenant, on fait connaissance, c'est déjà un peu moins drôle, avec notre fameux sous-directeur.
Ménard Spencer était blanc. Il approchait la soixantaine et ses cheveux noirs coiffés en brosse étaient tissés de fils d'argent. Du genre à sauter du lit pour reprendre l'expression de Harriet et dont le moindre geste paraissait calculé comme répété devant un miroir. Il avait un mince visage de raton laveur dans lequel Elwood nota un nez minuscule, des yeux cernés de noir et d'épais sourcils en broussailles. Son uniforme bleu nuit trahissait un caractère maniaque. Chaque pli semblait assez net pour être tranchant, faisant de lui une lame ambulante. « Je vais donc être bref. Vous êtes tous ici parce que vous êtes incapables de vivre avec des gens respectables. Bon, Nickel est une école et nous sommes des professeurs. Nous allons vous apprendre à faire les choses comme tout le monde. Pour le moment, vous êtes des asticots. Il y a 4 niveaux dans cet établissement. Vous commencez asticot et si vous travaillez bien, vous devenez explorateur. Ensuite, pionnier et pour finir, as. Restez dans le rang. Vous gagnerez des bons points et vous grimperez les échelons. Votre objectif est de passer as. À ce moment-là, on vous donne votre diplôme et vous pouvez retrouver votre famille. Une pause. À supposer qu'elle veuille encore de vous, mais ça, c'est votre problème. Spencer avait un visage sévère, mais lorsqu'il toucha l'énorme trousseau de clés à sa ceinture, sa bouche parut tressaillir de plaisir, ou signaler peut-être une émotion plus sinistre.
Donc évidemment, Spencer, ça va être l'âme damnée de la maison de correction, celui qui poursuit d'une haine raciste majoritairement, mais aussi d'une haine tout court, les garçons qui ont eu la malchance de tomber sous sa domination. On verra ça plus tard, mais avant, on va faire connaissance avec Turner, qui va être le principal copain de Elwood.
Elwood fit la connaissance de Turner le deuxième jour, qui fut également celui où il découvrit la sinistre fonction du bruit. La plupart des Noirs y ont droit au bout de quelques semaines, lui expliqua ce garçon qui s'appelait Turner. Laisse tomber ton numéro de faillot, elle.
Le bruit, c'est un bruit qui s'est produit dans la nuit et auquel elle n'a rien compris.
Presque tous les matins, ils étaient réveillés en sursaut par le clairon. Blakely tapait à la porte de la chambre 2 et criait « Debout là-dedans !» Les élèves saluaient de ce nouveau jour à Nickel par des grognements et des jurons. Ils se mettaient en rang deux par deux pour la pelle, après quoi ils avaient 2 minutes pour se doucher, se frictionnant avec leur savon crayeux avant de laisser la place au suivant. Elwood réussit à ne pas montrer sa surprise devant les douches communes, mais il eut moins de succès lorsqu'il s'agit de dissimuler son effroi sous la froideur de l'eau, mordante et impitoyable. Le liquide qui jaillissait des tuyaux sentait l'œuf pourri, une odeur qui collait à la peau tant qu'on n'était pas sec. « Maintenant, on va au petit déjeuner, » dit Desmond. C'était un des voisins de l'île d'Elwood et il s'efforçait d'obéir aux instructions du responsable de maison. Desmond avait une tête ronde, de bonnes joues de bébé et une voix rauque et basse qui surprenait toujours la première fois. Elwood lui répéta son nom pour marquer un nouveau départ dans leur relation. « Tu me l'as déjà dit hier, » répliqua Desmond. Il laça ses chaussures impeccablement cirées. « Quand t'es là depuis un moment, t'es censé filer un coup de main aux asticots. Ça rapporte des points. Moi, je suis à mi-chemin de passer pionnier. » Il fit avec Elwood les 500 mètres qui menaient au réfectoire. Mais ils furent séparés dans la file d'attente et lorsqu'Elwood chercha une place, il ne le vit nulle part. L'atmosphère était bruyante et chahuteuse, résonnant de toutes les bêtises matinales que s'échangeaient les garçons de Cleveland. Elwood était redevenu invisible. Il repéra une place libre à l'une des longues tables. Lorsqu'il approcha, un garçon tapa du plat de la main sur le banc et lui dit que c'était réservé. La table voisine était occupée par des élèves plus jeunes, mais quand Elwood posa son plateau, ils le regardèrent comme s'il était fou. « Les grands n'ont pas le droit de s'asseoir à la table des petits, » expliqua l'un d'eux. Dès qu'il aperçut une nouvelle place, Elwood se rua dessus et mangea en évitant de croiser le regard des autres pour ne pas risquer de se faire encore refouler. La bouillie d'avoine avait été chargée de cannelle pour camoufler son goût douteux. Elwood n'en fit qu'une bouchée. Il termina d'éplucher son orange avant de lever enfin les yeux sur le garçon d'en face qui le dévisageait depuis le début. La première chose que remarqua Elwood fut l'entaille dans son oreille gauche comme dans celle d'un chat errant habitué à se battre. La deuxième chose que remarqua Elwood fut l'étonnant rapport au monde de ce garçon. Malgré le brouhaha adolescent qui rendait le réfectoire assourdissant, il évoluait dans une poche de silence n'appartenant qu'à lui. Avec le temps, Elwood découvrirait qu'il était à l'aise dans toutes les situations et en même temps paraissait n'avoir rien à faire ici. Il était à la fois à l'intérieur et au-dessus. Quand le groupe est à part, semble dans le groupe et à part. Semblable à un arbre tombé en travers d'une rivière qui n'aurait jamais dû être là et qui finit par donner l'impression qu'il n'a jamais été ailleurs, créant ses propres rides dans le grand courant. Il se présenta, dit qu'il s'appelait Turner. « Moi, c'est Elwood. Je viens de Tallahassee, Frenchtown. »
Donc voilà, c'est Turner. On fait connaissance de Turner et Turner va être celui finalement qui va ouvrir les portes et surtout qui va décoder le fonctionnement de l'école pour Elwood. Avant de voir comment effectivement fonctionne l'école, on va mettre un petit peu de musique. Pour la pause musicale, j'aurais pu bien sûr, je sais pas, pour avoir un artiste de la même couleur que Elwood, prendre Billie Holiday ou Tracy Chapman. Mais étant donné la violence du son et la référence explicite au Ku Klux Klan, j'ai préféré Rage Against the Machine et vous allez avoir Killing in the Name.
Some of those that work forces are the same that burn crosses. some of those that work forces draw the same that burn crosses. Now you do what they told ya. 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 Don't you die. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya.
We rage against the machine, they use forces and they burn crosses. Donc leur attachement de la ségrégation des États du Sud, c'est bien ça, c'est la violence policière ou la violence de la ségrégation qui est la même que celle du Ku Klux Klan quand il menace les populations noires en brûlant des croix ou en pendant des individus. Là, on est toujours à l'école, on est toujours à l'école Nickel, centre de redressement Nickel, où se trouve Elwood. Le petit déjeuner est fini, ça va être l'heure d'aller en cours, et vous allez voir comment ça se passe.
Oui, le Ku Klux Klan, il brûlait des croix devant leurs futures victimes, devant leur maison.
Devant la maison des futures, oui, enfin des éventuelles futures victimes. Allez voir si vous connaissez pas bien les États-Unis ou bien l'histoire des États-Unis, allez voir l'histoire du Ku Klux Klan, c'est quand même édifiant. Mais je pense qu'on a tous justement en mémoire, ne serait-ce que des films aussi américains quand même, où on a dénoncé ça. Par exemple, Mississippi Burnings. Allez voir Mississippi Burnings, c'est édifiant. Donc, l'heure d'aller en cours. Desmond donna une tape sur l'épaule d'Elwood et l'escorta. Les classes des Noirs se trouvaient dans un bâtiment au pied de la colline, près du garage et des entrepôts. « Avant, je détestais l'école, » dit Desmond. « Mais ici, on est bien, on peut roupiller tranquille. »« Ah bon ? Mais je croyais que c'était super strict, » s'étonna Elwood. « Ouais, tu parles. Chez moi, mon père me foutait des raclées quand je séchais les cours. Mais à Nickel, c'est différent, on dort sur place. » Desmond lui expliqua que finalement, les résultats scolaires n'avaient aucune incidence sur la progression vers l'obtention du diplôme. Les profs ne faisaient pas l'appel, ne donnaient pas de notes. Donc, quand on était malin, bon, on avait des bons points à droite ou à gauche, on en accumulait et on pouvait ensuite être libéré pour bonne conduite. Ce qui comptait, c'était le travail, le comportement, les démonstrations d'obéissance et de docilité. Ça comptait en effet bien plus que les notes. Desmond, lui, il y pensait sans arrêt. Il voulait absolument rentrer chez lui. Il venait de Gainesville. Son père était cireur de chaussures. Il avait fugué bien des fois. Chaque fois, il avait été retrouvé, ramené. Et donc, c'était le père de Desmond qui suppliait Nickel de le reprendre. Mais moi, j'aime pas. Ce que j'aime, c'est dormir à la belle étoile. Et Desmond se détourna, lui dit, « Bon, écoute, il faut absolument progresser, et il faut arriver pionnier, il faut arriver as, et il faut sortir d'ici pour aller dormir à la belle étoile. » Sortie de ce corps un peu efflanqué de jeune ado, la voix d'adulte était à vous fendre le cœur. Plus ancienne que les dortoirs, l'école pour les Noirs était un des rares bâtiments existants depuis l'ouverture de l'établissement. Il y avait deux classes à l'étage pour les petits et deux au rez-de-chaussée pour les plus grands. Desmond dirigea Elwood vers leur salle, celle des grands, où on s'entassait autour d'une cinquantaine de pupitres. Elwood se faufila au deuxième rang et ce qu'il vit le consterna. Au mur, des chouettes à lunettes ululaient les lettres de l'alphabet à côté d'illustrations bariolées représentant les mots de base. Maison, chat, grange, des trucs pour les tout-petits, pire que les manuels d'occasion de Lincoln, pire que tous les petits bouquins qu'il avait eus avant. Mais voyons, qu'est-ce que c'était que ça ? Même les éditions les plus vieilles, au moins on apprenait à lire. Là, c'était juste les lettres et les mots de base. Elwood, qui à l'extérieur faisait de tête toute la comptabilité de la boutique de M. Marconi, fut outré par le niveau de mathématiques. Non seulement il aurait dû être à l'université, c'est d'ailleurs pour s'y rendre qu'il était monté dans la voiture, mais ici, il n'apprenait rien. Il avait des manuels qui étaient nuls, et les professeurs se fichaient complètement de ce qui se passait dans la classe pendant qu'ils faisaient leurs cours. Donc pendant que les élèves, pour certains, déchiffraient à tour de rôle l'histoire du jour, les additions à faire, les multiplications à vérifier, Elwood, lui, se demandait vraiment ce qu'il faisait là. Quand la cloche du déjeuner sonna, il alla trouver le professeur qui fit mine de le connaître. « Ah oui, bonjour mon garçon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Un petit noir de plus finalement. Ils se suivaient et se ressemblaient tous. De près, les joues et le nez rose de Mr. Goodell étaient ridés, bosselés. Il transpirait. Cachant l'indignation qu'il avait ressentie pendant le cours, Elwood lui demanda s'il n'y avait pas à Nickel d'autres cours, des cours de niveau supérieur, pour les élèves qui visaient d'aller à l'université. Et il expliqua humblement que tout ce qu'il avait fait là, bien sûr, il le connaissait depuis des années. Monsieur Goodell se montra arrangeant. « Mais bien sûr, je vais en parler au directeur. Rappelle-moi déjà comment tu t'appelles ?» Elwood rattrapa Desmond. Il lui racontera sa conversation avec le professeur. « Et t'as cru à ces conneries ?» lui dit Desmond. « Tu parles. » Après le déjeuner, quand vint l'heure du cours d'art plastique et de l'atelier, Blakely, le chef de maison, prit Elwood à part et lui expliqua que ça serait plus intéressant pour lui qu'il rejoigne une équipe de jardiniers composée d'autres asticots qui avaient déjà commencé un travail, que l'entretien des espaces verts lui permettrait de faire le tour du propriétaire, de voir l'ensemble du terrain. Elwood eut droit quasiment à une visite guidée tandis qu'il défrichait la colline, longeant les deux autres dortoirs, longeant les terrains de basket en terre battue et l'imposante blanchisserie. En contrebas, c'était le campus blanc. Il apparaissait presque entier entre les arbres. Il y avait trois dortoirs, un dispensaire et les bâtiments administratifs. Donc, c'était là que finalement, il y avait le bureau du directeur au-dessus duquel flottait le drapeau américain. Le directeur, on ne le verrait pas souvent. Il y avait aussi des installations que les élèves blancs ou les élèves noirs utilisaient en décalé, comme le gymnase, la chapelle, la scierie, etc. Vu d'en haut, finalement, l'école des blancs était identique à celle des noirs. Et Elwood se demanda si elle était en meilleur état, comme les écoles de Tallahassee, ou si le niveau d'éducation était moins désastreux pour les blancs que pour les noirs. En fait, je suis coincée ici, se dit Elwood. Eh bien, je vais prendre une résolution. Je vais en tirer mon parti. Je vais tout faire pour que ça dure le moins longtemps possible. Dans son entourage, déjà, on avait salué son tempérament égal, fiable. Eh bien, à nickel, il allait faire la même chose. Il allait se faire remarquer par ses bons côtés. Au dîner, il demanderait à Desmond combien de points il fallait pour pouvoir gagner l'échelon supérieur, combien de temps on mettrait et combien de temps, donc, il pourrait progresser pour s'en aller plus vite. Ce serait sa manière de résister. Donc ça, c'est la grande résolution de Elwood. Il se dit « Ok, je suis là, mais autant que ça dure, le moins longtemps possible. » Et il est bien décidé à tout faire pour passer sous les regards et pour s'en aller le plus vite possible. Manque de chance, le jour même, le soir même, il est pris à partie par d'autres pensionnaires et il est accusé avec eux d'avoir causé du désordre. Donc en fait, lui et les copains, enfin qui ne sont pas du tout ses copains, bah, lui et ses copains vont être condamnés à la fameuse Maison Blanche, à la fameuse Maison du Marchand de Glace, dont il a entendu un bruit terrible sortir la nuit précédente. Et c'est Françoise qui nous raconte l'histoire du Marchand de Glace.
La peau des garçons blancs ne marquait pas comme celle des garçons noirs, et c'est pourquoi ils appelaient l'endroit le Marchand de Glace, parce qu'on en sortait avec des hématomes de toutes les couleurs. Les Noirs, eux, l'appelaient la Maison Blanche parce que c'était son nom officiel. Il lui allait bien et il n'y avait rien à ajouter. La Maison Blanche édictait la loi et tout le monde obéissait. Ils vinrent à 1h du matin, mais ne réveillèrent presque personne, car tous avaient du mal à fermer l'œil en sachant qu'ils allaient venir, même si c'était pour quelqu'un d'autre. Les garçons entendirent le gravier crisser sous les pneus, les portes s'ouvrirent, des pas lourds dans l'escalier. Mais entendre, c'était aussi voir, à grands coups de pinceau sur la toile de l'esprit. Les lampes torches des hommes dansaient. Ils savaient où se trouvaient les lits. Il y avait moins d'un mètre entre chaque couchette, et pour éviter de reproduire des erreurs passées, ils vérifiaient désormais à l'avance. Ils prirent Lonnie et Black Mike. Ils prirent Corey et ils prirent aussi Elwood. Ses visiteurs nocturnes étaient Spencer et un surveillant nommé Earl, grand et vif, une qualité utile lorsqu'un garçon craquait dans une des salles du fond. Au dîner, personne n'avait adressé la parole à Elwood, comme si ce qui le guettait était contagieux. Certains avaient chuchoté sur son passage « Quel con !» et les brutes lui avait lancé des regards furieux, mais plus que tout, il y avait eu dans le dortoir une atmosphère pesante de menaces et de malaise qui ne se dissipa que lorsqu'ils furent emmenés. Alors, le reste des garçons souffla et certains parvinrent même à rêver. Au moment de l'extinction des feux, Desmond avait murmuré à Elwood que, une fois que ça avait commencé, il fallait s'efforcer de rester immobile. Il y avait une encoche découpée dans la lanière qui lacérait la peau si on bougeait. L'incantation que répéta Corey dans la voiture, « Je vais tenir et ne pas bouger, je vais tenir et ne pas bouger », semblait le confirmer. Elwood n'avait pas demandé à Desmond combien de fois il y avait eu droit, car l'autre se tut après lui avoir donné ce conseil. La lanière mesurait 1 mètre de long. Elle avait une poignée en bois et portait déjà le nom de Black Beauty avant l'arrivée de Spencer, même si ce n'était pas l'original qu'il brandissait. Il avait bien fallu la réparer ou la remplacer de temps à autre. Avant de retomber sur vos jambes, le cuir claquait contre le plafond pour vous annoncer qu'il arrivait, et les ressorts du sommier grinçaient à chaque coup. Elwood s'accrocha au cadre du lit et mordit dans l'oreiller, mais il perdit connaissance avant la fin, si bien que lorsqu'on lui demanda combien de coups il avait reçu, il fut incapable de répondre.
C'est donc ça, la Maison Blanche ou la maison du marchand de glace, et le bruit affreux que Elwood a entendu la nuit précédente, c'est le bruit d'un ventilateur que les opérateurs, pourrait-on dire, mettent en fonction, oui, mettent en marche, pour couvrir les éventuels cris. Mais en fait, comme le dit notre auteur, les jeunes mordent l'oreiller, mordent le matelas, et finalement ne crient pas vraiment. Et lorsque la douleur est insupportable, comme dans le cas d'Elwood, ils deviennent inconscients, ils tombent dans l'inconscience. Elwood, on ne saura pas non plus combien de coups il a reçus, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va être admis longtemps à l'infirmerie pour pouvoir se remettre de ses blessures. Ce sont véritablement des blessures. Elwood va donc séjourner à l'infirmerie suffisamment longtemps pour voir un certain nombre de choses, pour voir un certain nombre de gens qui passent dans l'infirmerie. Écoutons un petit peu comment ça se passe. Un pantalon neuf était posé sur la chaise, près du lit d'Elwood, au dispensaire. Les coups de fouet avaient incrusté dans sa peau des fragments du précédent pantalon et il avait fallu 2 heures au médecin pour retirer les fibres incrustées. C'était une tâche qu'il devait exécuter de temps à autre. Il y allait à la pince à épiler. Le garçon resterait alité jusqu'à ce qu'il soit capable de se retourner ou de marcher avec une moindre douleur. Elwood passa tout son séjour sur le ventre, pour des raisons évidentes. Et le dispensaire l'initia à son rythme propre. Tout un ballet de garçons arriva, repartit. Elwood fit même la connaissance de certains blancs qu'il n'aurait jamais rencontrés auparavant. Pupilles de l'État, orphelins, fugueurs, ils avaient mis les voiles, ils avaient fui leurs ivrognes de père ou de tuteur. C'étaient des vrais durs, ils avaient volé, ils insultaient les professeurs, ils vandalisaient des propriétés publiques, ils traînaient des histoires de bagarres sanglantes. Finalement, c'était tout autre chose que les petits délinquants noirs qui étaient là. Une semaine après son arrivée au dispensaire, Elwood découvrit en ouvrant les yeux Turner dans le lit d'à côté. Guy Ray sifflotant le générique de l'Andy Griffith Show et ne tenant pas en place. Turner était un vrai rossignol, ses sifflements avaient la particularité de ranimer l'humeur de ses congénères, et c'était bien agréable. Turner, en fait, attendait que l'infirmière Vilma sorte fumée pour expliquer la raison de sa présence. « J'avais envie de vacances, » dit-il. En fait, il avait mangé de la lessive pour se rendre malade, il avait trouvé une poignée de lessive dans un coin qu'il avait ingurgité, il avait eu bien sûr 1 heure ou 2 de maux de ventre, mais ça valait la peine pour quelques journées de repos. Et il dit à Elwood, « J'en ai même caché dans ma chaussette, je vais remettre ça. » Voilà, parce que l'infirmerie, c'est le repos. L'infirmerie pour Elwood, c'est une façon de se soigner. L'infirmerie pour les autres, comme d'ailleurs dans bien d'autres cas de prison, ben l'infirmerie, c'est quand même une façon d'échapper aux règles stupides, ici, aux règles stupides du pensionnat. Une autre façon d'échapper aux règles stupides du pensionnat, et c'est aussi Turner qui va l'indiquer à Elwood, c'est d'aller faire des travaux extérieurs, qu'ils appellent les travaux d'intérêt général. Turner a fait admettre Elwood pour aider Harper, qui est justement le responsable des travaux extérieurs, le responsable des travaux d'intérêt général. Écoutons Harper et écoutons comment ça se passe.
Il paraît que tu sais la boucler, fit Harper. C'est le plus important. Et sur ces mots, ils passèrent les portes de l'école. Depuis leur séjour au dispensaire, Elwood et Turner traînaient ensemble presque tous les jours, tuaient le temps l'après-midi dans la salle de loisirs en jouant aux dames et au ping-pong avec Desmond et d'autres garçons au tempérament aussi placide qu'eux. Souvent, Turner déboulait dans une pièce avec l'air de chercher quelque chose, puis il se mettait à raconter des conneries et oubliait ce qu'il était venu faire là. Il était meilleur qu'Elwood aux échecs. Ses blagues étaient plus drôles que celles de Desmond, et contrairement à Jamie, son emploi du temps était stable. Ça veut dire travaux d'intérêt général, avait répondu Turner. Le premier sens de ces trois mots était qu'Elwood pouvait faire comme s'il n'avait jamais essayé d'aller à l'université en stop. L'espace de quelques heures, il n'était plus à Nickel. Sa première incursion dans le monde libre depuis son arrivée. Le monde libre, une expression de Tollard qui avait contaminé l'école car elle s'y appliquait bien, apportée par un garçon qu'il avait entendu de la bouche d'un père ou d'un oncle malchanceux, ou par un surveillant trahissant ce qu'il pensait réellement de la condition des pensionnaires, malgré le vocabulaire officiel qui avait cours à Nickel. L'air était frais dans les poumons d'Elwood, et tout derrière la vitre lui paraissait renouvelé, éblouissant. Ils firent quatre arrêts à divers endroits de la ville, d'Eleanor, avant d'arriver chez le chef des pompiers. Il y eut d'abord le John Dinner. Une trace de rouille attestée d'une apostrophe et d'un S détaché. Ils se rangèrent à l'arrière et Elwood jeta un coup d'œil à la cargaison que transportait la camionnette. Des cartons et des cajots sortis des cuisines de Nickel. Petits pois en boîte, conserves de pêche, compote de pommes, haricots blancs à la sauce tomate, jus de viande. Un échantillon de ce qui avait été alloué pour la semaine par l'État de Floride. Harper alluma une cigarette et colla un transistor contre son oreille. C'était jour de match. Turner tendit à Elwood des cartons de haricots verts et des sacs d'oignons qu'ils portèrent jusqu'à l'entrée de service du dîner. « Oubliez pas la mélasse, » ajouta Harper. Quand ils eurent terminé, le propriétaire apparut, un pecno obèse dans un tablier qui était un palimpseste de taches sombres, et donna une claque dans le dos de Harper. Il lui remit une enveloppe. Dehors, les mois suivants l'amèneraient à tout voir de la ville d'Eleanor, au gré des tournées de leur trio. Ils découvriraient l'envers de la petite rue principale, car Harper se garait toujours près des entrées de service. Parfois, il déchargeait des cahiers et des stylos, d'autres fois des médicaments et des pansements, mais le plus souvent, c'était de la nourriture. Des cuistots firent disparaître des dindes de Thanksgiving et des jambons de Noël, et le proviseur adjoint de l'école primaire déballa une boîte de gomme pour les compter une par une. Elwood, qui se demandait pourquoi les élèves n'avaient pas de dentifrice, avait maintenant la réponse.
Eh oui, donc les travaux d'intérêt général, c'est une façon effectivement pour l'établissement, avec son directeur et son sous-directeur, de vider ce qui est alloué normalement aux élèves et de le vendre à un certain nombre de commerçants ou d'habitants de la ville d'Eleanor juste à côté. Le premier jour, une fois la camionnette vide, en dehors des ventes, ils allèrent faire des travaux, en effet sûrement d'intérêt général, justement chez le capitaine des pompiers. Et ça, eh ben oui, ça faisait partie aussi de ce que faisaient les élèves de l'école. Donc, Turner, Elwood, Harper, ben oui, ils participent à cette espèce de grande fraude que représente aussi l'école qui remplit les poches du directeur ou du directeur adjoint.
Et vide les ventres des élèves.
En vidant les estomacs, oui, c'est ce qu'on allait dire des élèves. Alors, tous ces scandales, eh ben, Turner et Elwood vont nous les faire découvrir jusqu'à ce qu'on arrive à savoir, en effet, tous les sévices qui ont été infligés aux élèves morts et enterrés dans le cimetière clandestin retrouvé à la fermeture du centre. On ne va pas vous révéler la fin de la vie de Elwood et Turner. Sachez qu'ils sont sortis du centre, mais en effet, après leur sortie du centre, il y a eu la révélation de cet affreux scandale. Donc, on vous laisse. Je vous souhaite vraiment de lire le livre de Colson Whitehead, Nickel Boys. C'est pas très long et ça en vaut vraiment la peine. À bientôt!
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda Malaika.